Bonjour à toutes et à tous. Tout au long de la mois de juin, nous avons choisi un thème, c'est la famille. Même aujourd'hui, nous allons voir la famille, le foyer chrétien, le lieu privilégié de la transmission de la foi. Et donc, vous avez reçu peut-être un poster. Construire une famille en crise dans un monde en crise. Construire une famille en crise dans un monde en crise. Crise. Comment Dieu utilise le foyer pour la transmettre, pour transmettre la foi. La famille, lieu privilégié de la transmission de la foi. Faire du foyer lieu privilégié de la transmission de l'Évangile. Et donc, nous avons choisi ce sujet qui fait l'objet de sévères attaques de nos jours. Et ce n'est pas nouveau, car il en a toujours été ainsi depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dimanche dernier, nous avons fêté la fête des mères, et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je trouve que c'est une ironie, une étrangeté que chaque année nous célébrons nos mères et nos pères. Et en même temps, la société que nous vivons détruit le fondement même de la famille. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous arrêter un moment dans nos vies occupées pour savoir si nous sommes bien armés par la parole de Dieu pour résister à l'attaque de l'ennemi. Un chrétien dans ce monde qui est en guerre contre lui avec toutes sortes d'armes visibles et invisibles, n'a rien d'autre que le Seigneur et sa parole pour se défendre et combattre le beau combat. Construire une famille en crise dans un monde en crise. Nous avons tous une famille et nous faisons partie d'une famille. Chaque enfant de Dieu qui vit pour glorifier Dieu est concerné par la dégradation et la destruction de la structure familiale dans un monde aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, nous sommes inquiets pour notre famille. Le monde est en crise. Nous trouvons notre monde aujourd'hui dans une crise morale et sociale. La pire situation que l'on puisse trouver est celle d'être inconscient du danger à venir. Les grandes institutions de la société humaine sont remises en question et attaquées. Les institutions de Dieu, comme le mariage et les questions sur la vie, la mort, et le genre sont inquiétantes et l'autorité de Dieu est déconcertée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous au début de la fin de la société humaine? Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi qui suis debout derrière ce pupitre aujourd'hui pour vous prêcher ce sermon sur la famille, je sais combien je suis une personne misérable et imparfaite. J'ai mes propres luttes. J'ai des membres de ma propre famille dans cette salle qui m'écoutent pendant que je vous parle. Ma femme et mes enfants me connaissent plus intimement que vous. Ils voient mon comportement et ma conduite à la maison en tant qu'un mari et père. Je suis conscient que parfois je pourrais prêcher un sermon plus puissant par la façon dont je vis à la maison. Je prie le Seigneur pour qu'il pardonne mes péchés et qu'il m'aide dans ma faiblesse. Mais maintenant, alors que je prêche ce sermon, je suis l'un entre vous à écouter le Saint-Esprit, alors qu'il est en train d'œuvrer dans nos cœurs et à changer nos vies davantage à la gloire de Dieu. Dans ce monde, une famille typique se compose d'un père, d'une mère et des enfants. C'est l'image que nous vient à l'esprit lorsque nous entendons le mot famille. Dans certains pays comme l'Inde, il existe des familles élargies, très unies, pour des raisons économiques ou d'autres raisons sociales diverses, où deux ou trois générations vivent dans le même ménage. Dans cette situation, il y a des grands-parents, des parents, des enfants, des oncles, des tantes et leurs enfants qui vivent ensemble comme une seule famille heureuse depuis des décennies. Ici, nous parlons d'une famille normale dans ce monde, pas nécessairement d'une famille chrétienne. Que le mariage soit honoré de tous. Si vous êtes marié dans un temple hindou, ou dans une mosquée, ou à la mairie de votre ville, le mariage, c'est le mariage. Les hommes, ils sont en train de faire simplement ce que Dieu a initié lorsqu'il a créé l'homme, ainsi comme le mariage. La famille est aussi une institution divine. C'est Dieu qui a fondé la famille. Dieu a établi la famille sur la terre et c'est le fondement fondamental de la création de Dieu. Il a tout créé dans le monde, y compris les deux premiers membres de la première famille. Quand on examine la Bible, quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas de partenaire idéal, même si à l'époque, l'autre que l'homme, chaque création avait un partenaire. Après avoir vu la solitude d'Adam et son manque de compagnons, Dieu a créé un partenaire idéal pour Adam. À partir de ses propres os et chair, une femme retirée de l'homme, nous trouvons dans le deuxième chapitre de Genèse. En tant que chef de la première famille, Adam a reçu son partenaire d'une manière spéciale. Il considérait Ève comme une partie de lui-même. En Genèse 2, 23, nous lisons, « Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Il l'aimait plus que tout au monde. Adam et Ève partageaient un amour bienveillant, engagé et véritable l'un envers l'autre. La famille est ordonnée par Dieu et est une institution sociale fondamentale. Et c'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il a même réitéré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. La Bible définit clairement la famille et son rôle dans la société. Une famille existe lorsque le mari et la femme sont légalement mariés, sont engagés l'un envers l'autre pour la vie. Et la famille adhère aux valeurs traditionnelles sur lesquelles la famille est fondée. De nombreux sociologues chrétiens croient que la condition de mariage et de la famille dans une société décrit la condition de la société entière. Si la famille est troublée, alors la société est troublée. La famille, c'est l'unité de la société. Encourager, édifier l'institution ordonnée par Dieu du mariage et de la famille est donc essentiel pour la société. Malheureusement, la société d'aujourd'hui fait plus pour décourager le mariage et la famille que pour les construire. Les nombreuses forces qui travaillent contre le mariage et la famille sont principalement le résultat de la révolution sexuelle d'inspiration humaniste laïque. Par exemple, notre culture enseigne que l'homosexualité est un mode de vie normal. La mère adolescente et le foyer sans père sont répandus dans notre société et sont promus par l'État même, alors que dans le même temps, la moralité, la loi divine sont bafouées. Bien que la philosophie de vie du monde nie l'existence de l'âme humaine, la vision chrétienne du monde reconnaît le mariage et la famille comme l'institution qui nourrit toute la personne. De ce point de vue, la famille offre un environnement qui encourage la croissance mentale, la croissance spirituelle, sociale et physique. Ainsi, tout comme la condition de la famille influence la société, la condition des familles chrétiennes influence l'Église. Je pense que on peut comprendre ça. Si les familles de l'Église ne sont pas bien, l'Église ne sera pas dans la bonne santé non plus. Si les membres de l'Église ne sont pas, bien, l'Église elle sera affectée, car l'Église, c'est nous. Plus que jamais, les familles de l'Église ont besoin de donner un exemple biblique à la maison, à l'Église, dans la communauté, à l'école, au travail et dans tous les aspects de la culture. Malheureusement, le rôle de l'Église dans la famille a été confus. L'Église est un système de soutien qui devrait être là pour aider les parents à diriger tous les jours à la maison. La communauté ecclésiale fournit l'affirmation de la parentalité. Au fur et à mesure que l'Église confirme les enseignements de la Bible, elle valide vos instructions à la maison. Ils vous soutiendront et vous fourniront les outils dont vous avez besoin pour élever les enfants qui aiment Dieu. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'Église élève vos enfants. Il est temps pour les parents de se tourner vers la parole de Dieu et de conduire leur propre famille à honorer et à servir Dieu comme une famille à travers les bras de l'Église. Comment la famille, le foyer chrétien, est le lieu privilégié de la transmission de la foi? L'homme n'a pas été créé pour vivre seul dans ce monde. Nous voyons dans les premières pages de la parole de Dieu qu'il a été créé, qu'il les a créés, l'homme et femme, et les a bénis pour qu'ils se multiplient. En cela, nous trouvons l'ordre familial. Dans certaines religions, avec le désir de vivre une vie sainte, les hommes et les femmes se séparent de la société humaine pour vivre seuls. Comme des sadhus, comme des moines. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a placé l'homme dans une structure sociale, appelée la famille. Aristote avait dit que l'homme est un animal social. Non, l'homme a été créé à l'image de Dieu et il est différent du reste de toute la création. Et c'est Dieu qui lui a donné une famille. Les animaux n'ont pas la même chose comme les humains. Donc comment on peut comparer l'être humain qui était créé à l'image de Dieu comme des animaux? Lorsque nous vivons avec les autres, nous communiquons. La communication est la partie essentielle de la vie en communauté. C'est un comportement social incontestable. La première communication humaine a eu lieu entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui a premièrement parlé avec l'homme. Nous, nous n'avons aucune trace de communication verbale entre Adam et Ève, ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas du tout parlés. Ils sont bien sûr parlés, ils sont communiqués entre eux, Adam et Ève. Lorsque nous vivons ensemble dans une société, nous communiquons. Il y a une transmission de la pensée et du comportement. Bien qu'à cause du péché, Adam et Ève aient été bannis de la présence de Dieu, ils auraient dû communiquer à leurs enfants, Caïn et Abel, tout au sujet de Dieu et de sa promesse de les sauver. Nous voyons ici la transmission se faire d'une génération à l'autre. Lisez avec moi Psaume 145. Dieu est éternel et l'homme, il adore Dieu de génération en génération. L'homme, il goûte Dieu personnellement de génération en génération. Il transmet ce qu'il connaît de Dieu de génération en génération. Psaume 145, je vais lire le premier 13 versets. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Verset 4. Et que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta dominion subsiste dans tous les âges. Donc l'homme, il devrait transmettre ce qu'il connaît de Dieu à génération en génération. Il devrait parler de la bonté, l'amour de Dieu de génération en génération. Il devrait transmettre la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu de génération en génération. Quand Dieu est apparu pour la première fois à Moïse, il se présente comme le « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». C'est ainsi que Dieu le présente à Moïse. Le roi d'Égypte ne connaissait pas le Seigneur, pas plus que les enfants d'Israël. Non. Israël, les deux, ils ont oublié. Mais dans la parole, nous lisons qu'il y avait un pharaon qui ne connaissait pas l'Éternel. Et parce qu'il y a des générations qui sont passées, le message était perdu. De ce que le Seigneur il a fait pour les enfants d'Israël, le message n'est pas passé pénétrer ces générations. Et aussi, les enfants d'Israël sont aussi oubliés qui est Dieu. Et donc, Dieu présente comme « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 400 ans d'esclavage en Égypte leur avaient fait oublier le Dieu d'Israël. Moïse lui-même avait oublié son état et erré dans le désert avec les brebis de son beau-père. Mais Dieu lui apparaît comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est pourquoi notre Dieu est un Dieu des générations. Il l'est et il le sera. Il est le Dieu de génération à génération. » Et en psaume 68, je vais lire pour vous. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse de temps ancien. » Regardez ici, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et le prodige qu'il a opéré. Le psaume 68, le verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et l'ordonné à nos pères d'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc nous avons un devoir de transmettre, si nous avons connu qui est Dieu, nous avons un devoir de transmettre aux autres, ceux qui vont venir dans l'avenir. Chaque génération a des souvenirs, des histoires et des valeurs qu'elle veut transmettre à la génération suivante. Cela inclut particulièrement les valeurs spirituelles de notre foi. Et nous ne voulons pas que leur foi soit abandonnée après avoir quitté la maison. Et nous devrions savoir que ce n'est pas la société qui devrait enseigner à nos enfants, ni le rôle de l'école. Quelqu'un a dit que si vous n'enseignez pas à vos enfants ce qui est Dieu, le monde leur enseignera ce qui est ce que Dieu n'est pas. C'est notre devoir d'enseigner à transmettre cette foi à nos enfants par rapport à Dieu. Ce n'est pas des autres qu'ils devraient informer nos enfants par rapport à la foi chrétienne. Nous pourrions avoir tendance à penser que nos enfants saisiront nos valeurs spirituelles simplement en étant autour des parents et de l'Église. Souvent nous pensons que, mais souvent dans le témoignage on peut dire que j'ai grandi dans une église, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Nous entendons les choses comme ça. Et nous avons la tendance de penser que nos enfants saisiront nos valeurs spirituelles simplement en étant autour des parents et de l'Église. S'il est vrai que les valeurs sont plus saisies qu'enseignées, si nous n'avons pas l'intention d'enseigner le pourquoi derrière la valeur, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi la foi est importante. Est-ce que nous expliquons pourquoi nous considérons Dieu, comme notre Dieu? Est-ce que nous expliquons pour quelles raisons nous donnons la plus grande place à Dieu dans notre vie? En tant que parents, notre marche avec Dieu est plus importante que nos discours sur Dieu. Et nous pouvons dire tout ce que on peut raconter l'histoire biblique quand les enfants sont petits. Souvent, en tant que parents, on raconte l'histoire biblique, nous lisons l'histoire biblique. Et notre marche avec Dieu est plus importante que notre discours sur Dieu. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac, Abraham et Isaac ont voyagé ensemble jusqu'au lieu du sacrifice. J'aime ce passage où nous voyons Isaac apprendre l'obéissance et la foi en Dieu de son père, Abraham. Regardez avec moi en Genèse 22. On va lire le premier 8 versets. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. On va lire le 8 premiers versets. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va ton pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste et chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Mais je ne sais pas si ça pourrait être fait aujourd'hui. Je ne parle pas de l'Holocauste, je parle le père qui décide les choses, un enfant, un jeune homme qui accepte tout ce que le père il dit. Et fin de verset 6, on voit, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et le verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais quelle belle image que le Père et le Fils, ils marchent ensemble. Le Père, il explique. Il révèle la réponse à sa question. Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira. Et c'est là qu'Isaac, il a dû comprendre la foi d'Abraham, même s'il n'a pas compris ce que ça va passer. Est-ce que c'est lui l'Holocauste? Il n'avait pas la réponse pour beaucoup de questions, mais il a vu comment Abraham, son père, il a obéi à la voix de Dieu. Quand Dieu il appelle Abraham, Abraham tout de suite il dit, moi aussi. Mais qu'est-ce que nos enfants, quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils apprennent? Notre obéissance, notre foi, notre marche dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'ils nous... Mais il faut faire attention que nos enfants ils sont en train de nous regarder. Ils feront pas autre chose. Mais vous savez, Abraham, on applaudit Abraham comme un grand homme de foi, mais il a menti à cause de la peur en Égypte. Il a menti par rapport à sa femme Sarah. Et nous voyons encore la deuxième génération, Isaac, il fait les mêmes choses. Il a fait la même chose comme son père. Pourquoi? Nous devrions poser cette question. Pourquoi il a fait cela? Et la circonstance peut arriver, comme arrive à nos parents, situation peut arriver à nos enfants, et comment ils vont conduire. Est-ce que nous avons mis un exemple devant eux, comment se conduire? Mais Abraham, ici, il a conduit comme il devrait conduire, comme un homme de la foi. Et c'est beau de voir que dans le verset 8, ils marchèrent tous deux ensemble. Et combien de fois que, en tant que père, en tant que mère, nous marchons devant nos enfants, avec nos enfants, ou simplement nous sommes en train de passer les commandes, on est en train de passer les instructions, c'est ainsi que tu devrais faire. Mais est-ce que nous avons le courage de dire que fais comme moi je fais? Et soyons honnêtes en tant que parents, nos enfants ne voient pas toujours notre meilleur côté. Ils peuvent attraper les mauvaises valeurs affichées dans nos moments de faiblesse. Souvent on pense que enseigner de Dieu aux enfants, c'est le travail de professionnels, hein, entre guillemets, les pasteurs, les anciens, l'école de dimanche, le groupe d'ado, pré-ado, ou groupe de jeunes de l'église. Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas capable d'enseigner mes enfants, mais mes enfants, mon enfant. Et à l'église, il sera enseigné, ça le suffit. Et c'est ainsi, certains parents se retirent du jeu, ayant l'impression que leur manque de connaissances ou leur erreur antérieure les disqualifie pour être la principale influence spirituelle dans la vie de leur enfant. Et en tant que parents, nous n'avons pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour enseigner nos enfants. Cependant, si vous connaissez suffisamment l'Évangile pour croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous en savez assez pour commencer à influencer vos enfants à croire Jésus aussi. Et la réalité est que vous êtes beaucoup plus présent dans la vie de votre enfant que n'importe quel dirigeant de l'Église ne peut espérer de l'être. C'est le devoir de chaque parent d'être à côté de ses enfants. Il y a un autre problème de nos jours. Combien de temps passons-nous avec nos enfants? Combien de temps passons-nous avec nos enfants? Est-ce que nous sommes présents avec nos enfants? On peut être physiquement présent dans la même chambre, dans le même salon, mais est-ce que nous sommes véritablement présents à côté de nos enfants? Sommes-nous présents quand ils ont plus besoin de nous? Plus besoin de nous? Nos enfants sont-ils éduqués par le petit écran à la maison ou par leur père et leur mère? Qui éduque nos enfants? C'est le petit écran partout dans la maison qui éduque nos enfants? Ou en tant que parents, c'est nous donnons l'éducation qu'ils ont besoin? Avons-nous oublié ce que la Bible enseigne? Nous avons lu ce passage la semaine dernière, mais nous allons lire encore une fois. Deutéronome 6, 1. Deutéronome chapitre 6. Et avant ce passage, même à Exode 20, le Seigneur il a donné les 10 commandements. Et des autres commandements, comment les enfants d'Israël devraient comporter parmi les nations. Et en Deutéronome chapitre 6, nous voyons ces instructions. Deutéronome 6, chapitre 6, verset 1. Voici le commandement, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ce n'est pas un commandement à écouter, simplement. Et nous allons à l'église pour écouter un sermon ou une prédication. Ce n'est pas quelque chose à écouter seulement, mais afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Est-ce que nous avons remarqué ce qui est dans le verset 2, afin que tu craignes l'Éternel? Mais c'est une chose qu'on peut comporter comme un chrétien religieux qui fait ses devoirs tous les jours, toute la semaine et chaque dimanche. On peut se comporter comme un chrétien religieux. Mais est-ce que nos enfants, notre entourage, ils voient que nous craignons l'Éternel? Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Est-ce que tout le monde peut voir, tout le monde peut savoir que nous obéissons, nous craignons l'Éternel, véritablement. Et pas seulement nous, nos enfants et nos petits-enfants. Le verset 3, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et que tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. C'est une chose d'écouter la prédication, c'est une chose d'écouter la parole de Dieu, c'est une chose de lire la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on prend la peine pour mettre en pratique? Ça, c'est la partie la plus difficile. Est-ce que nous prenons la peine pour mettre la parole de Dieu en pratique? Et je reconnais que c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie personnelle, c'est le côté le plus dur. Verset 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Est-ce que nos enfants, ils voient que nous adorons le seul Dieu, le véritable Dieu, ou nous avons des autres dieux, les petits dieux, avec minuscules dans notre vie? Est-ce qu'on peut aimer le sport? On peut aimer les films, la télé, les livres? On peut aimer beaucoup d'autres choses. Est-ce que nos enfants, ils voient que nous aimons Dieu seul? On donne la première place et la dernière place pour Dieu. la place centrale de notre vie à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu inculqueras à tes enfants. Inculqueras à tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et ces choses-là, mais parfois on peut voir, même dans les autres religions, que les gens ils font les choses comme ça. Et même dans la religion chrétienne, on peut avoir les versets partout dans le mur. De beaux versets pour décorer nos murs. Mais est-ce que la parole reste inscrite dans notre cœur? Est-ce que ça reste inscrit dans le cœur de nos enfants? Parfois, nous avons la tendance à penser que cela ne vaut pas la peine. Nous perdons espoir quand nous voyons ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Oui, c'est vrai, les enfants tout petits, de leur très jeune âge, même dans l'école élémentaire, ils sont enseignés des choses qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Et ce n'est même pas la vérité, c'est la fausseté qui est enseignée. C'est vrai, ça nous décourage. Notre société et le monde entier se corrompent. Mais nous avons simplement la responsabilité d'enseigner Dieu à nos enfants de la meilleure façon possible. Nous n'avons pas besoin de craindre ce que se passe autour de nous, mais nous avons le devoir d'enseigner nos enfants comme il faut. Dieu voit et honore les désirs de notre cœur, même si on ne sait pas lire des livres, même si on ne sait pas expliquer, mais Dieu voit le désir de notre cœur d'enseigner nos enfants. Il complémentera avec quelqu'un d'autre, avec un autre moyen. Il est vrai que l'adolescence est une période difficile de transition vers l'indépendance qui peut apporter un refoulement et une rébellion contre la volonté d'un parent. Mais nous devons reconnaître l'impact à long terme de permettre un vide spirituel d'exister dans votre foyer. Est-ce qu'il y a un vide spirituel dans notre foyer? Nous devrions sonder nos cœurs pour savoir que est-ce que je remplis ma tâche en tant que père, en tant qu'une mère? Les jeunes adultes auront du mal à prendre les sages décisions selon le désir de Dieu. Cela en vaut la peine, je peux témoigner en tant que père. Pas de plus grande joie que de voir votre enfant adorer Dieu parce qu'il le veut. Ma famille n'est pas différente de vôtre. Nous devons continuellement fournir des efforts pour transmettre notre foi à nos enfants. C'est un grand combat pour chacun d'entre nous. Un jeune homme qui comprenait qui est Dieu et était capable de saisir pleinement ce que Dieu avait pour lui était Josué, le jeune assistant de Moïse. Josué a appris à s'appuyer sur ses convictions de provision de Dieu en tant qu'espion minoritaire. Vous savez, Moïse a envoyé 12 espions et Josué était parmi ces 12. Mais 10 sont venus avec le rapport terrifiant par rapport au pays de Canaan. Mais seulement Josué et Caleb sont rentrés. Ils ont dit que non, nous serons capables de capturer ce pays, de prendre ce pays en possession. C'est seulement deux. Donc, il était minoritaire. Il a déclaré plus tard son obéissance en conduisant le peuple d'Israël à en prendre possession de la terre promise. Jésus a déclaré que lui et sa famille serviraient le Seigneur. Moi et ma maison servirons l'Éternel. Josué 24, 15. L'impact de ce leadership a été que le peuple d'Israël a continué à vivre fidèle à Dieu même après sa mort. Regardez ce que la parole dit. Je vais vous lire Josué 24, 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. C'est une grande chose, n'est-ce pas? Josué, avec courage, avec la foi, il a conduit le peuple d'Israël après Moïse. Et même après sa mort, Israël a continué à marcher dans la même voie. Pas seulement Josué, mais pas seulement les anciens d'Israël, et aussi le peuple, il continuait à marcher. Quelle influence dans notre pays où on parle de Charles de Gaulle même aujourd'hui. Et quelle influence avons-nous par rapport à nos enfants? Quelle influence, quelle empreinte laissons-nous pour notre génération future? Cependant, la transmission de la foi s'est effondrée après la mort de cette génération. Quelque part, le long de la ligne, les parents n'ont pas instruit leurs enfants et la communauté spirituelle dans son ensemble n'a pas honoré Dieu. Mais souvent, un maillon de la chaîne se rompt. Après les transmissions, ce ne fait plus. Et c'est une continuité. On devrait continuer. Sinon, ça peut être comme les enfants d'Israël après 400 ans. Ils étaient complètement perdus. Ils ne savaient pas ce que Dieu l'a fait à l'époque. Et Josué, livre de Josué, chapitre 2, 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qu'il ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. En faveur d'Israël. Et donc, toute cette génération fut recueillie après, quand ils sont morts, tous les gens de cette génération, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Qu'est-ce que sera l'état de notre Église dans 50 ans ou dans 100 ans? Est-ce que cette Église se témoignera toujours ce que le Seigneur il a fait pour elle? Ou on oubliera? Lorsque nous observons la vie des rois d'Israël dans l'Ancien Testament, après le règne d'un roi qui marche selon la loi de Dieu, son fils devient un dirigeant cruel qui fait des choses abominables aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, Dans l'histoire d'Israël, nous voyons qu'un roi qui était très très bien, il y avait beaucoup de rois en Israël qui étaient très bien. Après, il s'élève un autre roi, son fils. Il fait le tout au contraire de ce que son père il a fait. Un qui détruit tous les idoles et l'autre qui vient, qui érige tous les idoles de dieux étrangers. Et dans la Bible, nous avons l'exemple d'Élie et Samuel. Quand Samuel il vient chez Élie comme un petit serviteur de Dieu, comme un enfant, il voit ce qu'il ne voit pas chez le fils Élie. Ils font les choses abominables dans les yeux de l'Éternel. L'Éternel le frappe. Et Samuel, ses fils, ils font la même chose. Ils ne marchent pas selon la loi de l'Éternel. Le maillon, ce n'était pas gardé. Il y a quelque chose qui est passé que la transmission de la foi n'a pas eu lieu. Nous ne pouvons pas présumer que la fidélité passée se poursuivra et que les générations futures seront conscientes du grand héritage de la foi historique dont elles disposent. La transmission de notre foi doit continuer à être rafraîchie à chaque génération. Donc on devrait répéter ce que le Seigneur il a fait. Mais le plus grand témoignage, c'est de dire ce que le Seigneur il a fait dans votre vie. Ce n'est pas seul de ce que le Seigneur il a fait dans la vie de Paul, dans la vie d'un autre serviteur de Dieu, mais ce que le Seigneur il a fait. Est-ce que votre témoignage, il est fort pour parler du Seigneur? En étudiant la vie de Timothée dans le Nouveau Testament, nous découvrirons que Dieu nous a donné un modèle sur la façon de transmettre notre foi à nos enfants. Timothée était un jeune homme quand Paul a revisité Lystre lors de son deuxième voyage missionnaire, environ 5 ans après le premier. Il se peut que la famille de Timothée soit devenue chrétienne lors de cette première visite. Au cours de ces 5 années, Timothée a mûri dans sa foi sous la direction spirituelle de sa mère et sa grand-mère. Dans la dernière lettre de Paul à Timothée, Paul note l'environnement spirituel familial dans sa dernière épître en décrivant Timothée 1:5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je sais que la vie, ce n'est pas facile pour nous tous. Et parfois, nous sommes de familles recomposées. Et parfois, nous sommes le seul parent dans la famille. Et parfois, on peut être seulement un enfant sans les parents. Mais la famille de Timothée, ce n'est pas une famille complète non plus. On ne parle pas de son père qui était grec, mais on parle de sa mère et sa grand-mère. Donc l'apôtre Paul, il a certainement rencontré sa mère et sa grand-mère. Et les deux étaient la foi chrétienne. Que la façon dont il s'est élevé Timothée, ça se voit dans la parole de l'apôtre Paul. Et il voit comment l'enfant Timothée, le jeune homme Timothée a mûri. Les enfants imitent l'expérience religieuse de leurs parents. Ils prient comme vous avez prié en leur présence. Timothée n'agissait plus comme le bon enfant. Il avait pris possession de sa foi quand Paul avait vu la preuve de cette foi dans les actions de Timothée. La transmission de notre foi commence dans le foyer avec la pratique spirituelle. Que peuvent faire les parents? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents? Nous pouvons prier. Timothée était sur la liste de prières de Paul. Paul a pris l'habitude de prier avec une liste et de mentionner au moins dans la prière ce qui lui était précieux. Mais souvent nous prions pour des bénédictions. Bénis tel, bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis mon mari. Et sinon, protège mon enfant, protège ma femme, protège mon mari. Mais nous devrions prier plus que des bénédictions matérielles. Prions pour la bénédiction spirituelle. Prions pour leur bien-être spirituel. Priez que ils connaissent le Seigneur comme leur sauveur personnel. Priez pour qu'ils grandissent en sagesse, en appliquant l'expérience difficile au choix de vie. Comment nos enfants vont répondre aux questions qui posent la société aujourd'hui par rapport à la vie et la mort et beaucoup d'autres choses? Priez pour qu'ils fassent l'expérience de la plénitude de Christ. Priez pour que leur amitié soit des influences saines et positives. Nous devrions prier que nos enfants soient épargnés de mauvais entourages, mauvais amis qui peuvent les corrompre. Priez pour leur futur conjoint et vos petits-enfants potentiels. Et priez pour vous-même pour avoir la sagesse de quoi et quand dire, quand il faut dire quelque chose. Et c'est notre responsabilité d'enseigner nos enfants. même s'il, quand il devient grand, en tant que parent, nous avons toujours le conseil à leur donner. Nous serons toujours parents. Ils seront grands, mais nous serons toujours parents. Cherchez le moment propice à l'enseignement. Les enfants apprennent par l'expérience. Utilisez n'importe quelle situation, l'événement actuel, le culte de famille, les événements quotidiens avec les membres de votre famille pour souligner le caractère et le commandement de Dieu. Deutéronome 6 souligne la nature continuelle de la transmission de notre foi. Les discussions familiales peuvent ouvrir la voie à la croissance spirituelle des enfants. Soyez ouverts aux questions et soyez toujours prêts à trouver des réponses à leurs questions. Mais bien souvent, nous n'avons pas la réponse préfaite pour les questions de nos enfants. Nous nous trouvons peut-être coincés. Mais soyons honnêtes et on peut toujours chercher la réponse. On peut demander à quelqu'un d'autre si nous ne connaissons pas la réponse. Mais il faut être prêt pour leur répondre. En acte 16, chapitre 16, nous voyons, nous donne plus de contexte au début du voyage spirituel de Timothée. La mère et la grand-mère de Timothée étaient croyants, mais son père ne l'était pas. Du moins, pas au début. Tout ce que nous dit, c'est que son père n'était pas juif, mais grec. Bien que nous ne connaissons pas l'environnement spirituel dans la maison de Timothée en raison de la manque de foi de son père, la mère et la grand-mère de Timothée ont fourni une fondation qui continue à s'épanouir dans la communauté de foi, dans l'Église. Timothée était une partie active de l'Église de Lystre, dont les frères de Lystre et d'Iconium parlaient bien de lui. En acte 16, 2, nous lisons ainsi, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre dit qu'on rendait de lui un bon témoignage. » L'arbre est connu par ses fruits. On sait comment il a grandi, comment il était nourri. Cette communauté spirituelle, cette église plus large, avait passé du temps avec Timothée et avait trouvé instruit et fidèle. Ils ont trouvé Timothée instruit et fidèle. Ils ont vu un grand avantage à ce que Timothée rejoigne l'équipe de Paul et ont recommandé Timothée à Paul. Nous ne pouvons qu'imaginer Paul réfléchissant au jour où il a choisi Timothée pour la première fois. Paul voulait l'amener dans le voyage. Acte chapitre 16, verset 3. Et quel voyage ils ont eu. Paul en avait choisi d'autres et fut déçu. L'aiguillon de la trahison de Démas est resté avec Paul. 2 Timothée 4, 10. Démas, il était un compagnon de Paul. Il a quitté Paul pour les choses matérielles, pour les choses du monde. Mais Timothée, le jeune Timothée, il était un fidèle disciple à côté de l'apôtre Paul. Paul pouvait finir fort en sachant que le ministère qu'il avait engendré continuerait sous la direction de Timothée et des autres. C'est Tite. Paul écrit à Timothée au sujet de la fin de son voyage. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2, 2. La foi de Timothée, qui a commencé dans son foyer avec sa mère et sa grand-mère et s'est épanouie dans la communauté du foi plus large, et a atteint sa maturité grâce à son père spirituel, Paul. Timothée est un exemple de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un jeune adulte qui trouve des racines spirituelles profondes, d'abord chez lui, mère et grand-mère, et encouragé et fortifié par l'église locale à Lystre et encadré par son père spirituel, l'apôtre Paul. Il y a le chrétien, le disciple. Après, il y a la famille avec, pour qui il est responsable. Et après, il y a la famille de Christ aussi, c'est l'église. Dans l'église, vous pouvez adopter une mère, un père, un enfant, un frère et une sœur. Et personne ne devrait être délaissé sur le chemin. Nous savons que tout le monde dans l'église n'a pas de famille, n'a pas de conjoint ou d'enfant. Mais qui que vous soyez, vous avez absolument la responsabilité de transmettre votre foi. Vous ne pouvez pas vivre et mourir comme une lampe sous le boisseau ou comme du sel dans le coffre-fort. La Bible ne nous dit rien comme Noé prêchant à sa propre famille. On voit que Noé a prêché pendant des années avant le déluge qui arrive. Mais il n'a pas prêché à sa propre famille. Mais chacun d'eux est entré dans l'arche du Seigneur et a été sauvé. Noé, sa femme, ses trois fils et trois belles filles sont entrés dans l'arche avec Noé. Mais Noé prêchait le monde entier. Mais seulement le 8 était sauvé. Au contraire, Lot a choisi de vivre dans la prairie verdoyante et bien arrosée de Sodome. Mais alors que la grande ville brûlée est réduite à cendres, Lot se sauve à peine avec ses deux filles mariées. Sa femme a tourné son regard sur la ville pour devenir une colonne de sel près de la porte de la ville. Et ces gens n'ont pas sorti avec Lot. Et quel témoignage il avait auprès de sa famille. Noé, il a pu amener toute sa famille avec lui vers le salut. Mais Lot, il a perdu ce qu'il avait. Mais comment nous construisons notre foyer? Est-ce que nous construisons sur le rocher ou nous construisons sur le sable? Où mettons notre fondation? Quelle est notre fondation, fondement? La Bible appelle l'Église comme la maison du Seigneur. Dieu est notre Père céleste et nous sommes ses enfants. Nous sommes dans une seule famille. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Vous pouvez vous imaginer comme une course de relais. Nous tenons le bâton pour courir la course. Et lorsque vous aurez terminé votre distance, vous devrez passer le bâton à un autre. Pour courir la course, vous devez tenir le bâton et courir. Si vous n'avez pas le bâton, vous ne pouvez pas courir la course. Est-ce qu'on court la course? Est-ce qu'on tient le bâton pour dépasser le prochain, pour passer le bâton au prochain coureur qui va gagner la course, qui va atteindre le but? Et même dans cette église, nous sommes en train de courir notre course de la foi. Nous avons le bâton de l'Évangile dans la main et nous devrions transmettre notre foi aux prochaines générations. Nous devrions transmettre notre foi aux gens qui vont venir. Et peut-être nous allons jamais voir ce qu'il va venir, ce qu'il va courir après moi. Mais la course devrait continuer. Car le Seigneur, il est digne de... digne que nous courons pour lui. Et comment nous allons transmettre notre foi dans notre foyer, dans le lieu de travail, dans l'école, aux gens autour de nous? Comment nous transmettons notre foi même au sein de notre propre église? Et comment nous faisons? Est-ce que nous sommes en train de courir avec le bâton dans la main? Est-ce que nous sommes persévérants? Le monde peut regarder, mais nous devrions courir la course avec persévérance. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce que le Seigneur veut, que son nom soit loué et connu par génération à génération, et que personne oublie les bienfaits de notre Seigneur, notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce sujet que, Seigneur, c'est difficile de nos jours, Seigneur. La famille est attaquée par l'ennemi. Seigneur, notre culture il nous enseigne autre chose, ce qui est enseigné par ta parole. Seigneur, nous avons envie de faire autre chose que ta parole il nous enseigne. Mais Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta sainte parole. Aide-nous à adhérer à ta parole et Seigneur, obéir à tes commandements. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs fidèles, des disciples de Christ qui veut transmettre sa foi autour de lui. Seigneur, aide-nous. En tant que parents, Seigneur, aide-nous à transmettre notre foi à nos enfants, dans nos foyers. Que, Seigneur, notre foyer soit un lieu privilégié pour transmettre notre foi. Seigneur, nous vivons dans un pays libre, mais souvent nous trouvons que nous n'avons pas la liberté de parler de notre foi. La religion devient quelque chose de privé dans ce pays. Mais Seigneur, aide-nous et donne-nous le courage de parler de notre foi autour de nous. Seigneur, plus que parler, Seigneur, aide-nous par notre comportement, par notre conduite, par notre caractère, qu'il soit révélé et que les gens soient attirés vers toi. Seigneur, nous prions pour ton Église, nous te remercions pour cette Église, pour cette famille divine que tu as instituée. Seigneur, que personne n'est orphelin dans ton Église, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants et tu es notre Père céleste. Seigneur, tu prends soin de nous et tu pourvois à tous nos besoins. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi et obéir à ta parole. Dans le saint nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.